Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographie de Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale année 80. Et oui, décennie mythique, en tout cas pour nombre de cinéphiles et aussi de sériephiles, puisqu'il y a tout un buzz autour des années 80 depuis quelques années, avec une certaine nostalgie pour une époque qui n'était pourtant pas si cool que ça, comme vont pouvoir vous le préciser deux des chroniqueurs de cette émission, les deux vieux, qui ont vécu cette époque. Et je peux vous dire que c'était pas la meilleure des époques quand même, mais bon voilà. Alors on va vous parler de films qui sont sortis donc à cette époque, mais des films peut-être qu'on met pas souvent en avant. Alors surtout pour les deux premiers qui sont sortis chez Elephant Film. Donc Iceman de Fred Skepizzi, Miracle sur la 8e rue de Matthew Robbins, produit par Spielberg, voilà, les premiers pas d'un certain Brad Bird, mais on va en reparler. Et puis on va faire toute une partie, parce qu'on peut pas parler du cinéma des années 80 sans évoquer, alors bien sûr là on est parti aux États-Unis, hein, sans évoquer le cinéma de propagande, la canon, très typique du cinéma américain des années 80. Alors la propagande a toujours été au centre de toutes les cinématographies dans tous les pays du monde entier, on a toujours envie de réécrire l'histoire, hein, voilà, mais c'est très prégnant aux États-Unis, hein. John Ford l'expliquait déjà dans L'homme qui tue à Liberty Valance, et là on va vous parler de deux films qui se répondent, enfin on va dire il y en a plutôt un qui a pompé l'autre, voilà, en moins bien mais en tellement drôle. Alors celui qui a pompé, c'est notre ami Joseph Zito, hein, qui est mis à l'honneur chez ESC pour son Invasion USA avec Chuck Big Balls Norris, quand même, voilà, ça rigole pas, hein. Et puis quel film a-t-il pompé? Bon, tous les cinéphiles avertis le savent, il a pompé le magnifique L'Aube Rouge qui était sorti l'année d'avant, en 84, puisque, Invasion USA, c'est 85. L'Aube Rouge de John Milius, voilà, l'immense John Milius, qui d'ailleurs, l'édition est aussi disponible, hein, chez ESC. Alors l'équipe de Culture Prohibée remercie Julia Bélorger et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Émission réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, hein, je vous le rappelle, Prime Cut qu'on peut se procurer sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com ou sur le site des films de la Gorgone également, lesfilmsdelagorgone.fr, et puis je suis sur d'autres sites, Metaluna par exemple, et puis dans plein de bonnes librairies. Pour causer années 80, je suis entouré d'un jeune homme qui, dans les années 80, avait l'âge de moins 15 ans. Voilà, pour dire qu'il était hyper jeune, quoi. Voilà, il était à peine un petit spermatozoïde qui se promenait quelque part. Voilà, et donc il n'a pas connu cette glorieuse époque. Il est né après la chute du mur. Je veux bien sûr parler, vous l'avez compris, de notre bête noire de Compiègne, notre archéologue préféré, animal, en quête de cultures souterraines et oubliées, notre ami Damien Demey. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
L'autre bête hirsute, hein, qui est présente dans ce studio, le fameux loup-garou Picard, de son vrai nom Thomas Roland, le créateur de À l'écoute du cinéma diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune donc nous rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédac-chef, était lui bel et bien né dans les années 80, parce qu'il avait un an de plus que moi, le loustique. Donc, il a bien connu les années 80. Salut vieil homme.
Il me semble, Gégé, que tu as quelques problèmes de discernement parce que je ne suis pas si vieux. Mais bonjour néanmoins et bonjour Damien et bien évidemment bonjour à toutes.
On va effectivement se pencher un peu sur les années 80 à travers quelques films édités récemment, dont deux films édités par Éléphant de Film. Un film de 1984 de Fred Skepizi, un film avec Timothy Hutton, Lindsay Krause, Danny Glover dans l'un de ses premiers rôles. Hein, au cinéma, il avait bien galéré, là, Danny Glover. Il y trouve là l'un de ses premiers rôles importants. Bon, après, comme il sera soutien d'Hugo Chavez, il trouvera aussi moins de rôles. Mais entre deux, il aura une parenthèse enchantée, période arme fatale et compagnie. Il y a aussi David Strathern, Joseph Sommer, et puis surtout, un acteur assez rare, mais là qui est excellent, qui interprète le Iceman du titre, hein, c'est John Lone. Voilà, et c'est assez simple le pitch de ce film de Fred Skepizi. Iceman est un homme de Néandertal, en fait, qui est retrouvé, congelé dans la glace. Il est ramené à la vie par une équipe de scientifiques qui explore l'Arctique, hein, qui a une base, qui n'est pas l'équipe de The Thing de Carpenter, hein, voilà, et qui tente ensuite d'utiliser cette découverte, chacun pour son intérêt. Et parallèlement, nous, on suit l'évolution de cet homme de Néandertal qui va petit à petit, il va être remis en condition, on va lui créer un environnement, il va se réveiller, donc on va le remettre dans, même s'il va découvrir un peu la supercherie, les tuyaux d'arrosage et tout, il va découvrir que cet univers n'est pas vraiment son univers. Et il y a un des scientifiques qui va un peu se heurter au reste de la communauté scientifique et campé par Timothy Hutton, qui va lui essayer d'établir un véritable contact et essayer de comprendre cet homme des glaces, donc. Et malheureusement, il va se heurter à certaines réalités, hein, et ça va donner un film, ma foi, très très particulier. Alors, à la base, c'est un film qui devait être produit et réalisé par Norman Jewison. Présenté Norman Jewison, hein, dans La chaleur de la nuit, Rollerball, entre autres. Voilà. Et Norman Jewison s'empare de ce sujet, qui est une sorte de version sérieuse de notre Hibernatus d'Edouard Molinaro avec Louis de Funès. Hein. Voilà, là, on est complètement dans le sérieux. Bien que le pitch soit le même, hein, puisqu'on essaye de remettre la personne dans son univers d'origine et tout ça. Bon. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que Fred Skepizi, qui est un réalisateur australien, qui vient de rencontrer quand même un certain succès avec deux films qui s'appellent The Devil's Playground et The Chant of Jimmy Blacksmith, film de 76 et de 78. Il va essayer de s'imposer auprès de Norman Jewison. Il va lui dire, écoute, tu me laisses ton film, le scénario me passionne, c'est un film fait pour moi. Alors Jewison va lui dire, ok, je produis. Le film ne va pas du tout marcher. Hein. C'est pas que le film est mauvais, c'est que le film est vraiment très très particulier. Enfin, Harlan Ellison, le fameux Harlan Ellison, l'auteur de science-fiction, comme nous l'apprend dans les bonus Jean-Pierre Dionnet, aimait ce film parce qu'il considérait que c'était un des rares vrais films de science-fiction. Et effectivement, c'est à la fois ce qui fait la qualité et le défaut de ce film. C'est-à-dire que c'est un film, du coup, qui est un film quand même injustement méconnu, qui est à revoir, hein, mais qui est à découvrir même. C'est pour ça qu'on en parle dans l'émission. Mais qui est un film vraiment, vraiment sérieux. C'est-à-dire qui applique des données scientifiques réelles. Certaines même des pistes, telles que par exemple la conservation du corps par l'ingestion de pollen, seront en fait des pistes retenues par la suite par des scientifiques qui vont valider la thèse qui est développée là dans le film. C'est assez étonnant. C'est pour dire que le film est très travaillé sur le point de vue de la véracité scientifique. Du coup, ça donne un film qui est réellement de la science-fiction, puisqu'effectivement, c'est impossible. Enfin, en tout cas, on n'a jamais réussi à ramener à la vie un homme des cavernes et à l'amener à vivre avec nous, à cohabiter avec nous. Cohabitation impossible, d'ailleurs, ce qui est un peu le message du film. Cohabitation impossible pour ce personnage, en fait, qui se heurte à la réalité mercantile aussi de ces scientifiques, à leurs individualismes. Ça donne un film assez étrange qui décolle dans sa dernière partie, qui se met à devenir même violent. Une scène assez surprenante, hein, de meurtre, hein, voilà, on peut le dire, qui n'est pas vraiment un meurtre, mais enfin bon, voilà, qui est un meurtre quand même au bout du compte. Mais Et là, le film devient très étonnant. Alors, et en fait, le film pose plein de questions, y compris des questions sur la foi, des questions sur, sur l'au-delà, des questions... C'est un film vraiment... moi, j'aurais aimé voir ce film réalisé par un Ken Russell, par exemple. Voilà, j'aurais aimé voir ce film réalisé par un type un peu plus mystique, un peu plus barré. Comment il se serait emparé de ce scénario quand même très sérieux, très réaliste. Voilà. Et du coup, comme c'est trop réaliste, je trouve que c'est les limites du film et puis l'absence de personnages réellement attachants. En fait, le personnage attachant, c'est cet homme des cavernes qui lui est attachant. Grosse performance de John Lone, hein, l'acteur, il est excellent. Voilà, il est méconnaissable d'ailleurs. Et franchement, c'est un film moi, que je trouve bancal, mais qui est un film qui, dont par moments, l'aspect comment dire, scientifique confine presque à la poésie. C'est un peu étrange, en particulier avec les apparitions d'hélicoptères, en particulier lors du final. Et c'est pour ça que j'aurais aimé le voir réalisé par un réalisateur un peu plus mystique. Néanmoins, en l'état, pour moi, ça reste une curiosité. C'est quand même un film assez unique dans ce qu'il propose.
Iceman est très intéressant. Enfin, j'adore le pitch de base. C'est ce que j'appelle, pour moi en tout cas, l'effet groupe de scientifiques. C'est-à-dire quand un film débute sur un groupe de scientifiques, on sent un peu ce qui va se passer et d'habitude, ça me plaît. Et là, le film commence avec ce groupe de scientifiques. On trouve un truc dans la glace. Bon, ça fait penser à The Thing au début, mais on part clairement pas là-dessus. Et en fait, très vite, on se retrouve, comme tu l'as évoqué, Jérôme, avec un aspect un peu fantastique et poétique et assez compliqué à décrire. Il faut voir le film pour pouvoir le saisir. Mais c'est un film, comme tu l'as précisé, qui est filmé au premier degré. On a plus quelqu'un qui veut faire un docu qu'un film, mais qui du coup ne peut pas, vu que son sujet de base, c'est de la science-fiction. D'ailleurs, quand tu parlais de pollen qui se conserve, sache que l'étude des pollens, c'est la palynologie qui est utilisée pour justement refaire des environnements, enfin comprendre les environnements de l'époque. Alors, l'histoire est bancale sur différents points. L'un des points, alors, qui est très bien amené, mais qui, en fait, en réflexion, est, je trouve, un peu stupide, c'est notamment le moment où ils veulent réintroduire dans un environnement. Parce qu'en fait, du coup, l'environnement, au départ, il y a juste la discussion où ils se mettent plus ou moins d'accord pour le faire. Le Néandertalien se réveille dans un environnement avec une cascade, un peu de pierre, une grotte avec un effet désertique. Et au bout d'un moment, on le voit chasser, on le voit vivre dedans. Et au bout d'un moment, il tombe sur un câble. Et en fait, quand il suit le câble, bah, on comprend qu'il est en fait dans une sorte d'enclos d'un zoo pour un ours ou pour autre chose. Et en fait, la caméra dézoome et on se rend compte qu'il est en fait sous un dôme, littéralement dans un zoo. Et en fait, c'est un effet assez bizarre parce que, de base, l'homme préhistorique comprend en fait qu'il est dans un espace fermé qui n'est pas naturel, mais nous, on le comprend différemment au niveau de l'histoire, vu qu'on ne nous a pas révélé l'environnement. Je vois ce qu'ils veulent faire, mais c'est le seul truc que je pourrais plus ou moins leur reprocher. C'est compliqué de représenter un Néandertalien et n'importe quel homme préhistorique, parce que vu que toutes les connaissances, tous les 10 ans, évoluent extrêmement vite... Les films deviennent extrêmement caduques là-dessus. Par exemple, à l'époque où le film est fait, le Néandertalien est encore considéré comme un ancêtre de l'Homo sapiens, alors qu'aujourd'hui, il est considéré comme une espèce à part de l'Homo sapiens. Et le film, comme on l'a évoqué, gagne une partie poétique, fantastique, avec l'esprit de froid et de foi et de croyance. Et c'est vraiment le moment où je trouve que le film est extrêmement intéressant, parce que le scientifique qu'on suit, c'est un ethnologue, donc sa spécialité, c'est d'étudier les peuples et leurs croyances, la façon dont ils fonctionnent en société. Et à un moment du film, justement, il se rapproche des peuples arctiques qui y vivent pour essayer de comprendre un mot, une croyance du personnage. Et à partir de ce moment-là, il comprend le personnage préhistorique, sa croyance, pourquoi il est arrivé ici. On passe d'un regard naturaliste à quelque chose de beaucoup plus poétique avec la foi et la croyance. Et en fait, non, le film revient sur cette vision très documentaire d'essayer de comprendre. Ce qui est intéressant, parce qu'on voit finalement comment un ethnologue fonctionne. C'est d'ailleurs quelque chose qui est amorcé dans le film. À un moment, on le voit regarder un documentaire expliquer la résistance à la douleur, un peu comme les documentaires Mondo Carné, même si on n'a pas le son. Donc j'espère... Enfin, ils peuvent le regarder, mais j'espère que c'est pas ça quand même. Et c'est vraiment intéressant, parce qu'au final, lui, étant ethnologue, il a besoin de voir les gens parler et communiquer. Et c'est là où ça crée une tension avec les autres groupes de scientifiques qui sont généralement des chimistes et des biologiques, où les biologistes normalement ils ont besoin quand même de la nature sanglante, mais on n'a pas besoin de que le Néandertalien soit en vie pour justement l'étudier. Et il y a cette tension justement entre tous les groupes de science et chacun leur point de vue et ce dont ils ont besoin pour faire avancer leur domaine. C'est un film intéressant. J'arriverai pas vraiment à le situer, mais c'est justement un film qui du coup me laisse une émotion particulière et rien que pour ça, il en vaut la peine.
Ça s'appelle Iceman, c'est un film de Fred Skepizi et c'est disponible chez Éléphant de Film. Vous écoutez Culture Prohibée. Éléphant de Film qui a sorti également Miracle sur la 8e rue. Traduction un peu étrange, sans doute inspirée du Miracle sur la 34e rue de la fin des années 40, film plutôt familial. Voilà, parce que le titre original, c'est « Batteries not included », hein, « Batterie non inclus »,« Pile non inclus ». Voilà, donc, et donc c'est un film de 1987, c'est Miracle sur la 8e rue, c'est un film de Matthew Robbins, avec au scénario Matthew Robbins, mais aussi Mick Garris, Brad Bird, c'est ses tout débuts, Brent Maddock et S.S. Wilson, d'après une idée de, vous savez qui, Steven Spielberg. Miracle sur la 8e rue, qui au départ devait être un épisode de la série Amazing Stories, dont on a déjà parlé dans l'émission quand elle est à l'époque sortie en DVD Blu-ray, et voilà, on en avait causé. Et là, Éléphant de Film nous propose de voir ce film, donc Miracle sur la 8e rue, qui nous raconte l'histoire des habitants d'un immeuble qui est. Alors, il y a un promoteur véreux qui s'appelle Lacey. Et ce promoteur véreux, il veut raser le quartier, il veut y construire un complexe immobilier, drame de la gentrification déjà dans cette Amérique de 1987, cette Amérique de la fin des années 80, de cette Amérique. Amérique du libéralisme à tout craint, cette Amérique des winners, cette Amérique dont on va parler dans les films qui vont suivre juste après cette chronique de Miracle sur la 8e rue, parce que Miracle sur la 8e rue, c'est plutôt l'Amérique des parias, c'est plutôt l'Amérique des marginaux, c'est plutôt l'Amérique des losers. Alors Miracle sur la 8e rue, c'est donc ces habitants de ce vieil immeuble que l'on veut expulser, à qui on envoie des nervis afin de les effrayé pour qu'il quitte l'immeuble. C'est ce vieux café plein de souvenirs qui est au pied de l'immeuble, ce vieux bar qui est toujours dans un état nickel et qui est conservé par ces vieux propriétaires. Ce vieux couple qui est joué par Hume Cronin et Jessica Tandy, qui jouaient dans Cocoon, qui reprendront leur rôle aussi dans Cocoon Le Retour. Bon, ça, c'est mieux que Cocoon, hein, quand même. Hein. Bon, je préfère ça à Cocoon. Voilà, je trouve ça un peu mieux troussé, on va dire. L'histoire de ces personnes qui sont donc tous des parias, puisqu'il y a une Latina abandonnée par son mec qui est musicien, qui part faire des tournées. Elle est toute seule, elle est enceinte, elle s'ennuie. Donc une femme seule, enceinte, un artiste qui n'arrive pas à vendre ses toiles, qui est un artiste un peu doux, rêveur, comme ça. Et ce couple de personnes âgées qui tient donc ce bar, ce couple de personnes âgées avec mamie qui a complètement perdu la tête depuis qu'elle a perdu son fils qui est mort. Elle fait comme s'il était toujours vivant et comme s'il était toujours adolescent. Et d'ailleurs, Le nervi qui vient sans cesse les menacer est un latino et elle ne cesse de l'appeler par le prénom de son fils mort, de vouloir lui offrir un café, de vouloir, alors qu'à chaque fois qu'il vient il casse tout dans la boutique, il bousille tout ça, voilà. Et ce méchant promoteur fait travailler John Panko qui est toujours les rôles de salaud, et il dirige donc des nervis qui sont censés tout détruire. Et puis un jour, le nervi, le méchant garçon, là, il vient tout péter dans le bistrot, et là, c'est la fin de tout. Ils sont tous désemparés, désemparés par ce qui se passe, tous ces habitants. Dans ces habitants, il y a aussi, par exemple, un vieux boxeur déchu qui passe son temps à tout réparer, mais qui a un peu perdu la boule, qui est un noir énorme, une masse musculaire énorme, voilà. Et tous ces gens-là sont des losers comme ça dans leur appart, des gens moins que rien, dont on se dit après tout on s'en fout d'eux, faut les dégager, il y a un complexe immobilier qui arrive. Et moi c'est ça que j'aime bien chez Spielberg, ce qui me paraissait gnangnan à l'époque en fait me paraît aujourd'hui vachement intéressant, parce que c'est totalement en fait à contre-courant du discours qu'il y avait aux États-Unis à l'époque, c'est-à-dire de ce discours où il fallait être un winner, écraser son prochain, être le meilleur, être celui. D'ailleurs, Trump va se faire connaître en construisant des grands complexes immobiliers. Trump qui est lui aussi vilipendé par Spielberg et par Joe Dante à travers le film Gremlins 2, où il y a carrément le personnage de Trump, qui n'a pas le même nom évidemment, mais qui est un mania de l'immobilier comme ça, qui est complètement, qui se fait défoncer par les Gremlins dans ce grand film anarchiste qui est Gremlins 2. Alors Miracle sur la 8e rue n'est pas du même niveau, hein, mais donc tous ces gens menacés un jour ils vont recevoir le concours, l'aide assez étonnante d'extraterrestres qui, sous la forme de soucoupes volantes, pas plus grande qu'une tasse de café, quoi, des mini soucoupes volantes. Un couple, en fait, on découvre que c'est un couple, hein, voilà, parce qu'à un moment, ils vont encore produire des plus petites soucoupes volantes, hein, voilà. C'est un couple qui vient comme ça, et ces extraterrestres débarquent la nuit, on les remarque à peine, ils sont à peine plus gros qu'un gros insecte, quoi. Et en fait, ils sont complètement déchargés et ils viennent se réparer en se branchant sur une prise. Et à partir de là, ils vont être reconnaissants parce que ça leur sauve la vie. Et donc, parce qu'ils ont un pouvoir magique, ces petites capsules, qui ne parlent pas, qui ne disent rien, hein, qui sont mignonnes comme tout, là, mais qui ne disent rien. Voilà. Et ils ont le pouvoir de tout réparer. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réparent tout le bistrot en bas qui a été saccagé, alors que tout le monde s'apprêtait à quitter l'immeuble. Ils réparent tout. Le lendemain, tout le monde se lève, tout est réparé. Les mecs n'y comprennent plus rien. Les gros bras n'y comprennent plus rien. Ils se disent, mais ils se foutent de notre gueule, ces mecs. Mais comment ils font pour tout réparer, tout ça? Et ça va être le combat de David contre Goliath, voilà, et du pot de terre contre le pot de fer, aidé par ces extraterrestres, qui sont, ça va donner un film, moi, ce que je vous disais, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est de voir, alors, après Spielberg, lui, il a déjà le don pour repérer les mecs qui ont du talent. Matthew Robbins, c'est un homme de l'ombre. Il a été assistant, il a un peu fait tous les métiers. Il y a une interview de lui dans les bonus. C'est génial parce que le mec est hyper... Il est plein d'humilité, en fait. Il raconte, voilà. Alors, ça, dans le film, c'est pas mon idée, c'est l'idée d'un tel. Ça, dans le film, c'est... Moi, je me contente de filmer et tout. Alors, c'est vrai que c'est pas mise en scène. C'est pas la... une révélation en termes de mise en scène, mais c'est bien foutu, quoi. Et puis, surtout, à l'époque, c'est pour dire que Walt Disney n'avait pas le nez creux, quand même, hein. À l'époque, il vire deux animateurs qu'il ne trouve pas très performants, qu'il ne trouve pas très bons. C'est Tim Burton et Brad Bird. Bah, bravo, les gars. Je ne sais pas qui est le DRH de Disney, mais il aurait fallu... C'est lui qu'il fallait congédier. Et Spielberg, lui, voit tout de suite le potentiel de Brad Bird. Il le fait venir et il le fait travailler sur ce film avec un tout jeune Mick Garris, d'ailleurs, aussi, hein, Spielberg, qui est un découvreur de talent pas possible. Et le film, pour moi, est un film extrêmement sympathique, que j'aime beaucoup, où Spielberg continue de défendre l'une de ses thématiques, hein, qui est que les extraterrestres peuvent être gentils, ils peuvent être nos amis, et qu'il n'y a pas que des ennemis, que l'Amérique n'est pas confrontée, entourée d'ennemis. Voilà, on peut aussi trouver de l'amitié. Et donc, on a affaire à un film plein de charme, un film très joli. Et moi, ce que j'aime, voilà, c'est que le méchant promoteur reste un méchant promoteur, il ne devient pas gentil non plus, c'est pas nié, hein, voilà, il va jusqu'au bout. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ces scènes de solidarité où les ouvriers décident en fait de ne pas s'en prendre à la bâtisse par solidarité. Enfin, il y a des trucs assez sympas.
Et ça donne un film que j'aime bien, voilà, qui est un film à revoir et qui s'appelle donc Miracle sur la 8e rue. On y trouve bien la patte Spielberg des années 80. Et donc c'est un film qui mérite d'être revu. C'est un film charmant. Et comme je vous l'ai dit, c'est un film qui a cela de passionnant, qu'il est l'antithèse en fait de ce cinéma des winners des années 80, de ce cinéma de l'ultralibéralisme, ce cinéma de Reagan. Là, chez Spielberg, on est du côté des opprimés. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, évidemment, vous n'allez pas découvrir un chef-d'œuvre oublié. Par contre, c'est le film à voir en famille idéal. C'est un film qui va vous mettre de bonne humeur. Donc, merci, Éléphant de film.
Écoutez Culture Prohibée spéciale années 80.
Je vous entends venir, les amis, Qu'est-ce que c'est que ces chroniques? Qu'est-ce que c'est que cette haine des riches et des gens qui réussissent? Bon sang de bois, mais oui, dis donc, oh, nous sommes incorrigés. Mais ben, pour la peine, on va défendre un cinéaste ami des réactionnaires qu'on aime bien, nous, parce que voilà, nous, on n'est pas monolithique dans notre émission. Et un cinéaste qu'on a souvent défendu, d'ailleurs, hein, si on parlait de John Milius, on va vous parler de cet autre pendant du cinéma américain des années 80, qui est très clairement le cinéma anti-rouge, hein, qui est présent depuis les années 50, hein, aux États-Unis, hein, la menace communiste, la menace soviétique, et qui va atteindre quand même, bon, qui va atteindre un certain summum dans les années 80, avec des films quand même pas piqués des verres, en particulier de par la société de production. Qui a produit évidemment des grands films subtils, hein, La Canon, hein, qui n'y allait pas par quatre chemins pour faire du cinéma de propagande hyper caricatural. Voilà. Et La Canon va nous donner un film qui s'appelle Invasion USA, mais cette Invasion USA n'aurait certainement, Thomas, jamais vu le jour sans l'œuvre d'un script doctor du Nouvel Hollywood, d'un homme incroyablement talentueux qui a signé d'immenses films, je pense à Graffiti Party par exemple, Le Lion et le Vent, voilà, un certain, puis Conan quand même, Conan le Barbare, fabuleux, d'un certain John Milius qui en 84, hein, juste après son Conan, juste avant L'Adieu au Roi, film, excellent film méconnu, va nous pondre avec son ami Kevin Reynolds, hein, un scénario complètement dingue où les salopards d'écolo vont prendre le pouvoir en RFA et ils vont faire que l'OTAN soit dissous, hein, par le fait de la suppression des armes nucléaires. On est en 89. C'est dire que là, Milius, il n'avait pas été très clairvoyant, puisque en 89, c'est plutôt le communisme qui se casse la gueule, quoi, voilà.
Mais non, c'est grâce au film de Milius.
Ah, peut-être, allons savoir. Et donc, ce qui se passe, c'est que, bah, du coup, il y a la Troisième Guerre mondiale qui va éclater, puisque Cuba se met à envahir l'Amérique centrale, le Mexique rejoint le bloc soviétique, et c'est alors que des adolescents qui vont prendre le nom un peu de l'équipe, de la mascotte aussi, de leur lycée, qui vont se faire appeler les Wolverines, vont organiser la résistance, mon cher Thomas.
Oui, comme toujours avec John Milius, hein, c'est du cinéma très subtil. Enfin, grâce à lui, nous avons évité l'invasion russe et aussi d'avoir Sandrine Rousseau à l'Élysée. Voilà. En fait, bon, c'est un peu caricatural de dire ça de l'Aube Rouge, qui propose aussi des caricatures. Hein. Et à un moment, il y a des séquences dans la rue, dans la ville, où à l'affiche des cinémas, il y a Alexandre Nevsky. Ça dit que l'URSS ce qui était à l'époque l'URSS, sont pas très avancés parce qu'ils regardent toujours Alexandre Nevsky dans les années 80. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'autres productions cinématographiques là-bas. C'était un point d'humour de la part de Milius.
Je pense.
C'est un point d'humour de la part de Milius ou alors une petite pique à l'URSS pour dire que c'est un pays d'arriéré, quoi. Je pense que les deux sont bons. Mais donc, L'Aube Rouge, surtout, c'est un film anti-guerre, en fait. C'est un film anti-guerre qui prend plutôt son sens à la fin, quand l'officier cubain, à un moment, il épargne les personnages principaux. Mais c'est clairement un film contre la guerre. Même si on peut y voir toujours un film de propagande un peu bourrin. Et c'est aussi un film qui est une ode au courage, une ode à la jeunesse qui se rebelle contre un ordre établi ou quelque chose comme ça, quoi.
Je tiens à préciser, Thomas, et tu le sais, que j'aime vraiment beaucoup John Milius. Et j'aime bien L'Aube Rouge. Mais L'Aube Rouge est un film, quand même, dans sa filmographie, honteux, c'est un peu fort, mais qui est quand même un film à part du reste de sa filmographie et qui résonne un peu aujourd'hui quand même de façon étrange, même si effectivement, comme tu le dis, le final prouve quand même que John Milius est plus subtil qu'il n'y paraît. Mais il a quand même chaussé quelques gros sabots auparavant, durant tout le film. C'est un peu gênant parce qu'en fait, c'est un scénariste assez subtil, c'est un metteur en scène assez subtil, en fait, globalement. Donc c'est assez étonnant. C'est assez étonnant ce film qui fait, avec la complicité de l'armée, puisqu'il y a vraiment des militaires américains qui ont collaboré au film. Enfin, ça a été fait très sérieusement, ça a été pensé très sérieusement. Moi, je pense qu'il y a des points d'humour, parce que John Milius est quelqu'un de très drôle. Quand on lit ses entretiens et tout, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui peut être très subtil. Mais c'est quand même aussi un film. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'idées développées dans ce film qui sont des idées qu'il partage à 200%. Et il fait volontairement, pour moi, un film de propagande contre les communistes. Hein. Je pense vraiment qu'il y a aussi de ça dans le film. Malgré l'amour que je porte à John Milius et à son cinéma, faut aussi reconnaître les défauts de certaines de nos idoles. Et là, je pense quand même qu'il se fourvoie quand même un petit peu. Heureusement, comme tu le dis, après c'est aussi un formidable film d'action, hein, mais heureusement, comme tu le dis, qu'il se rattrape avec la fin du film quand même.
Je ne sais pas s'il se rattrape avec la fin de L'Aube Rouge. Il nuance son propos, mais il le nuance. C'est compliqué. Et la façon dont il bâtit son film rend la fin, je trouve, compliquée avec tout le reste. L'introduction est très agréable. En fait, on arrive par les nuages et au départ, on se dit, bon, bah, introduction assez simple. Et plus tard, enfin, un peu plus tard, au début du film, quand même, on se rend compte que c'est parce que les soldats russes et cubains, et en partie mexicains, sont parachutés d'Azone. Et on comprend, en fait, que ce qu'on voyait au début, c'était l'arrivée de la menace. Et à partir de là, il y a un système que prend le film, c'est qu'il va être chapitré à travers les mois. C'est-à-dire que le mois de septembre, c'est l'arrivée, le mois d'octobre, c'est l'occupation qui se met en place au fur et à mesure, et ça permet à chaque fois d'aborder à la fois un thème et éventuellement une esthétique. Par exemple, en janvier, c'est le moment où tout est neigé et est enneigé. Du coup, on a un espace blanc avec l'évocation du froid et aussi l'idée que le combat est un peu... gelé. C'est un film qui met en avant des scènes d'action, et là où je suis mitigé par rapport à la nuance qu'il apporte à la guerre, c'est que pour moi, la nuance qu'il fait, il le fait, mais elle inclut pas les Russes. C'est-à-dire que dans les envahisseurs, on a les Cubains et les Russes. Les Cubains, pour eux, il faut s'allier avec le peuple en place si on veut réussir à diriger, et les Russes, ils nous expliquent non, il faut forcément dominer. T'as un autre moment... Alors... que je trouve ridicule, et je pense que c'est dans son idée un peu du russe cliché, qui est, je crois qu'on doit être en février ou en mars, et les méchants perdent depuis plusieurs mois face au Wolverine, la résistance, et ils décident de changer ça. Et pour changer ça, ils font appel à un stratège russe, et le stratège russe leur propose une stratégie innovante, c'est qu'au lieu de les combattre quand ils attaquent, et ben ils vont aller chercher dans les montagnes pour essayer de les neutraliser. C'est le moment où le plan des méchants, ça devient, c'est bien de trouver la base des gentils. Et à chaque fois que les Russes interviennent, c'est forcément pour quelque chose de cliché. Et c'est les Cubains dans le film qui apportent la nuance, qui apportent le contact avec autrui. Et du coup, la fin, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un combat à mort entre les Russes et les Américains. Et quand le Cubain se retrouve face à ces jeunes Américains qui a la possibilité de le tuer, il y a un peu ce truc de l'horreur de la guerre qui est prise en conscience et qui est que le Cubain ne les tue pas et les laisse partir, vu que ce sont des humains. Et c'est pourtant un point qui est posé assez vite dans le film, enfin assez vite, un peu avant la fin, il y a la question de la torture du point de vue de la résistance qui se met en place, mais assez vite dans le film, il y a la question de tuer autrui qui apparaît. Du coup, c'est assez mitigé parce que s'il veut faire de la nuance, je dirais, alors de mon point de vue, bien évidemment, contrairement au film, je trouve qu'il s'y prend un peu mal.
On va conclure un peu sur L'Aube Rouge en disant quand même que c'est un... Bon, déjà, c'est une super musique de Basile Paul Doris, mais bon, ça, c'est un peu à chaque fois Basile Paul Doris, le regretté. Basile Paul Doris qui fait toujours des musiques assez extraordinaires. Puis alors, surtout, là, quand c'est une musique comme ça, un peu chargée, un peu exaltante comme ça, alors là, il est très bon. Hein. Surtout aussi, je voulais dire, c'est quand même un casting de dingue, quoi. Voilà, il y a quand même... Charlie Sheen, qui à l'époque quasiment rien tourné hein, en vedette. Il y a Patrick Swayze, qui n'est pas si connu que ça encore à l'époque. D'ailleurs, il y a aussi Jennifer Grey. Jennifer Grey et Patrick Swayze, c'est le couple, trois ans plus tard, de Dirty Dancing. Voilà. Il y a Léa Thompson. Et puis il y a des seconds rôles du cinéma américain que j'aime beaucoup, que Milius aime beaucoup aussi, de toute façon je ne les aurais pas pris, Harry Dean Stanton, Powers Booth aussi, qui est super acteur, Powers Booth, voilà, très, très, très charismatique. Mais quand même, vous n'avez pas parlé, il y a une scène avec des parachutes aussi qui est assez démentielle quand même, pour moi c'est la meilleure scène du film. Mais on va parler des heures de L'Aube Rouge, mais... Je veux quand même te dire, Damien, que si tu trouves que L'Aube Rouge n'est pas assez nuancé, moi, je vais te faire voir un film qui va t'amener droit dans la nuance, droit dans la subtilité. C'est Invasion USA de Joseph Zito, un film de 85. C'est la super production de la Canon.
Qui aurait osé imaginer que cela puisse arriver ici, en Amérique ? Une véritable armée de terroristes organisés, fanatisés.
L'Amérique n'a pas été attaquée par des agresseurs étrangers depuis 200 ans, mon vieux.
Leur cible, les États-Unis d'Amérique. Leur objectif, le contrôle du pays.
Dans quelques heures, demain, l'Amérique aura changé de visage.
Aujourd'hui, un seul obstacle se dresse contre leur projet.
C'est fini pour toi.
Ça marche pas, hein? Tenez, maintenant ça ira.
Il voulait une guerre.
On se reverra.
En enfer, oui.
Envoie-moi une carte.
Chuck Norris. Invasion USA. Changé 8 janvier.
Faut quand même savoir, on l'apprend dans les bonus, hein, mais que Golan et Globus, à un moment, ils téléphonent pendant le tournage, parce que bon, ils se font envoyer des rushs, hein, et ils téléphonent pendant le tournage à Joseph Zito, le réalisateur. Et Joseph Zito croit qu'il va se faire engueuler, qu'on va lui couper son budget, qu'on va lui dire, parce qu'ils ont une réputation d'être très pingres, et de faire changer les plans de tournage et tout ça et tout. Et ils lui disent, on adore, on fait une rallonge de budget, tu peux tourner plus encore, voilà. C'est l'anecdote des hantes, ça se voit à l'écran, parce que c'est un film hyper, hyper spectaculaire, hein. Il y a des scènes d'action très impressionnantes, il n'y a pas de numérique, hein. Donc c'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce que ça raconte, ce film qui met en vedette Chuck Norris ? Alors Chuck Norris, à un moment, il faudra se poser une question quand même, parce que moi, Chuck Norris, je me suis toujours, toujours, toujours dit ça. C'est jamais abordé, d'ailleurs, c'est pas abordé là non plus dans les bonus, mais Chuck Norris, quand même, les gars, on est d'accord, il est très gay-friendly, quoi. Quand il porte sa petite chemise fermée au-dessus du nombril, enfin voilà, avec sa musculature saillante comme ça, et ses deux mini-usis voilà, à la taille, pour flinguer à tout va, ces deux micro-pénis, là, comme ça, avec ces petites tenues sorties tout droit des Village People. Enfin, on a l'impression que c'est le membre manquant des Village People qui va nous sortir YMCA à chaque fois qu'il apparaît. Voilà. Pour moi, il y a un côté très gay-friendly chez ce barbu viril, quoi, quand même, qui n'est jamais abordé, mais moi, que je trouve... Alors, c'est un look très années 80, en même temps, vous allez me dire. Mais c'est quand même un look, moi, que je trouve très... pas très catholique, comme on dit dans la famille Norris, quand même. Hein.
Ah, voilà. C'est quand ? Faudra voir ça avec Pascal Francex pour le sujet.
Eh ben, j'en parlerai bien avec lui, parce qu'il va bientôt sortir un nouveau volume, de volume 3 de Kemp, qui est arrivé dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, le colis est arrivé aujourd'hui. Mais, hors scénario d'Aaron Norris, voilà, hors scénario, c'est un grand mot, quand même, mais l'histoire est assez simple. Voilà, on a Chuck Norris. Il faut savoir que c'est un énorme succès, ce film. C'est un énorme succès. C'est le plus grand succès, je crois que c'est le plus grand succès vidéoclub de la MGM de tous les temps. Je crois que c'est le film le plus loué, l'une des cassettes les plus vendues. Et quand ils l'ont ressorti en DVD au début du DVD, ça a été l'un des DVD les plus vendus au monde. Voilà, c'est étonnant, hein, quand même, c'est assez étonnant. Voilà, moi je trouve ça étonnant, je ne peux pas en dire plus. Alors, c'est le film, quand même, de deux des répliques cultes de Chuck Norris. Hein, Chuck Norris, alors on en apprend d'autres hein, dans les bonus, avec les fameux Chuck Norris facts. Il y en a un qui me fait beaucoup rire dans les bonus que je ne connaissais pas. C'est Chuck Norris a eu une mauvaise note en latin, depuis le latin est devenu langue morte. Et j'adore, je trouve ça excellent, ça me fait mourir de rire, voilà. Et Chuck Norris, qui est quand même, je pense, un type qui a plus d'humour qu'on veut bien le dire, parce qu'il a su rigoler de son propre personnage, par exemple dans les Expendables, où il fait une apparition géniale. Pour moi, c'est le meilleur moment de toute la saga des Expendables, des Buzz, où on le voit pas, tous les héros sont assiégés par des dizaines et des dizaines de combattants, et pendant 30 secondes on entend des gros bruits, ils sortent et ils voient Chuck Norris habillé comme dans les années 80, c'est deux flingues qui débarquent comme ça, et tous les mecs sont morts, on sait pas comment il a fait, et il a son sourire narquois au bord des lèvres, le même sourire qu'il arbore un peu là, parce que bon là c'est quand même, oh, je vais vous raconter l'histoire quand même, parce qu'il y a quand même, bon... J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de scénario. C'est vrai que le scénario, on a un peu du mal à le suivre. Il y a des trous dans l'histoire. Peut-être des trous au montage, je ne sais pas. Voilà. Mais je vous explique. En fait, Chuck Norris, c'est Matt Hunter. Alors, Matt Hunter, c'est un ex-agent de la CIA. Alors, on ne la lui fait pas. Hein. Il vit à reculer hein, dans les marais avec un pote indien et un tatou. Oui, comme animal de compagnie, Chuck Norris a un tatou. Il attrape des crocodiles à main nue parce que quand même, Chuck Norris va pas se laisser emmerder par des crocodiles, quoi, quand même. Faut pas déconner non plus, quoi. Donc, et voilà. Et puis, un jour, il y a une armée de guérilleros communistes, évidemment. Communiste, saloperie communiste, comme on dit dans Papy fait de la résistance, et qui est dirigé par un certain Mikhail Rostov, qui est interprété par contre par un acteur de série B génial, hein, Richard Lynch, qui est à moitié. On avait parlé de lui dans Meurtre sous contrôle, démon de Larry Cohen, qui est à moitié brûlé parce qu'il s'est lui-même immolé à l'époque où il prenait plein de drogues. Enfin voilà, un drôle de type, mais un acteur vraiment génial. Il est complètement habité, là. De toute façon, il est toujours habité. Là. Et là, il fait un méchant, mais vraiment très, très, très méchant. Et ce type dirige une armée de guérilleros, comme ça. Et il débarque. Il débarque en Floride. Ils veulent provoquer la Troisième Guerre mondiale. Ils attaquent les États-Unis, mais ils n'ont pas de bol. Alors, en premier lieu, quand même, il envoie des mecs tuer Matt Hunter. Hein, parce que lui, il attaque les États-Unis avec des milliers de gars, mais il a peur d'un type de Matt Hunter qui, par le passé, a déjà déjoué ses plans. D'ailleurs, il est très vénère. À chaque fois qu'il voit Matt Hunter à la télé qui se fout de sa gueule, qui lui dit « je frappe pas le poids, je vais te défoncer », et à chaque fois, il pique des colères comme un enfant. Il pique des grosses colères, il n'est pas content du tout, il n'est pas content, Rostov. Voilà. Et du coup, il perd un peu ses nerfs comme ça. Et puis, d'ailleurs, à la fin, il tombe dans un piège absolument grossier qu'un enfant de 4 ans aurait tout à fait compris, ne serait pas tombé dedans, mais lui, il tombe dedans. Voilà. Mais bon, ce n'est pas Chuck Norris qui veut. Voilà. Et donc, Chuck Norris, c'est Matt Hunter et les méchants. Bah, qu'est-ce qu'ils font ? Non seulement il tue son copain indien, mais il tue son tatou. Faut jamais tuer les animaux de compagnie des mecs qui vivent reculés. Enfin, on sait pas trop s'il tue son tatou, mais en tout cas, le tatou a pas l'air d'aller bien après l'attaque. Voilà. Alors, Chuck Norris, il est grave vénère. Et qu'est-ce qui se passe après ça ? Eh ben, on a le méchant, Mikhail Rostov, sans aucune incidence sur la suite du scénario, qui va se pointer chez un mec, un gros revendeur de drogue. Il le défonce, il y a une fille qui est en train de se faire une niflette. Il lui éclate la tronche sur la table. C'est absolument dégueu, c'est un effet gore vraiment dégueulasse. Il défenestre le gars. Et tout cela sans aucune incidence sur la suite du scénario, parce qu'il ne sera plus jamais question de drogue. Il n'y aura plus aucune scène en rapport avec cette scène-là. En tout cas, on sait qu'il est méchant. Il est très très méchant. Voilà. Et puis après, il décide d'attaquer les États-Unis, il décide d'attaquer Miami, il décide d'attaquer la Floride. Mais il n'a pas de bol. Parce qu'il y a Chuck Norris, Matt Hunter, et à chaque fois, Miami, ça doit être grand comme un, comme un quartier résidentiel avec 10 maisons, parce qu'à chaque fois que les mecs arrivent, il y a Chuck Norris qui surgit et qui les défonce.
Voilà. Je pense qu'Amiens, c'est plus grand.
Ouais, je pense. Hein, ouais, on est d'accord. C'est,
parce que j'ai jamais croisé Chuck Norris à Amiens.
Bah oui, et puis je pense que. Bah tu vois, je pense que la ville de Miami n'est pas plus grande que ce studio. C'est pas possible. Alors les Américains sont en guerre, mais ils n'arrêtent pas d'aller quand même dans les supermarchés parce que c'est Noël hein, aussi en même temps. Ça tombe. Voilà, donc ils n'arrêtent pas d'aller faire leurs courses pour autant. Il n'y a pas de couvre-feu, alors qu'ils sont attaqués de partout, bombardés et tout.
Mais oui. Le rêve américain résiste à l'envahisseur communiste.
Exactement. Et alors. Il y a Chuck Norris qui est là et qui pète la gueule à tout le monde. C'est absolument incroyablement réactionnaire, mais immensément drôle. Et alors, je résiste pas, évidemment, je résiste pas quand même à raconter quand même certaines scènes qui sont absolument surréalistes. Par exemple... Il y a des terroristes qui s'en prennent, donc je disais à l'instant, ils vont dans un centre commercial, ils défoncent tout le monde dans le centre commercial, et tout à coup, Chuck arrive avec son 4x4 dans le centre commercial, c'est bien connu, c'est plus pratique de rouler en 4x4, et il les défonce tous. Après, il y a des mecs qui veulent... Oui, Thomas ?
C'est quand même plus rapide que de faire un épi.
C'est sûr. Après, il y a des mecs qui veulent faire sauter une église. La bombe saute pas. Et tout à coup, il y a tous les communistes devant l'église qui attendent que la bombe saute. Et là, il y a Chuck Norris sur le toit de l'église avec la bombe dans la main, parce qu'on va quand même laisser les braves Américains. Allez, d'ailleurs, il y a un couvre-feu, en fait. Hein, je me rappelle qu'à un moment, ils disent qu'il y a un couvre-feu au moment de cette scène-là. Et prendre la bombe, et là, il leur jette dessus, et là, elle explose. Mais alors, le plus fort, c'est quand même le communiste est très méchant. On sait qu'il mange les enfants, le communiste, parce que ça, c'est très connu. Voilà. Et là, à un moment, il s'en prend un quart d'enfant et ils mettent une bombe. Mais qu'est-ce que fait Chuck ? Mais qu'est-ce qu'il fait, Chuck ? Eh bien, il roule à côté du char, du car scolaire. Il récupère tranquillou la bombe, voilà. Et il va jusqu'à la voiture des terroristes et il les regarde et il leur dit « Je crois que t'as oublié un truc, mec. » Et il fout la bombe dans la voiture. C'est juste phénoménalement énorme. Voilà, c'est juste extraordinaire. Et à la fin, avec son énorme biroute, c'est-à-dire un lance-roquette, il défonce le méchant. Voilà, on peut raconter la fin, on s'en doute de comment ça va finir. Et ça donne un film complètement porte-nawak, avec un moment quand même, il cherche le russe, il torture des mecs. Et moi, ce que j'adore, alors c'est là qu'il sort ces deux fameuses répliques, tu vas repartir avec tu vas repartir avec ta bite dans un Tupperware et toi tu commences à me baver sur les rouleaux tout ça c'est dans la même scène, sauf que le mec lui répond pas, en fait il se barre avant que le mec lui réponde, mais c'est pas grave, il le trouve quand même à chaque fois de toute façon, il avait pas besoin de l'avis du gars en fin de compte, voilà. Tout le film est comme ça, c'est-à-dire totalement insensé, plutôt bien troussé, parce que Zito, c'est un bon metteur en scène dans le sens formaliste. Évidemment, c'est pas Scorsese, on est d'accord. Mais c'est un bon metteur en scène dans le sens où il sait exploiter ce qu'il a sous la main. Il le fait bien, voilà. Donc le film est plutôt bien troussé. Mais alors, c'est quand même extraordinaire de produire des films comme ça. Sincèrement... souvent on l'entend dire « Oh ça, on pourrait plus faire des films comme ça aujourd'hui ». J'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal, mais on se fendait bien la gueule quand même.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial 80s.
En même temps, tu disais que c'est étonnant que ce soit le plus grand succès de Vidéoclub, etc. Mais t'as vu la gueule du Parti communiste aussi maintenant ? Ça m'étonne pas, quoi. Alors moi, j'ai une question existentielle. Est-ce que Matt a un lien de parenté avec Rick ?
Alors, je me suis posé cette question, mais comme il dit jamais ça marche pour moi, je pense pas. Voilà, parce que voilà. Alors pour un mec qui regarde pas les séries télé, t'as des références télévisuelles plutôt douteuses, mon cher Thomas, pour quelqu'un qui conchit les séries télé. Voilà.
Des années 80.
Ouais, voilà, bah oui, mais bon, ça marche pour moi. Voilà, disait Rick Hunter, vous l'avez compris. Et puis bah là, c'est Matt Hunter, Matt le chasseur. Où vont-ils chercher tout ça, quand même, mon cher Damien. Alors toi qui n'étais pas né à cette période, quel regard tu portes sur ce film, quand même, qui est un chef-d'œuvre du porte-nawak et du cinéma propagandiste de la canon?
Eh ben, c'est un nanar remarquable, hein, une véritable compilation de trucs fous et insensés. C'est à ça qu'au final se résume le film. Tu l'as dit, à la fin, il tue le méchant avec un bazooka, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la baston finale, c'est le méchant qui a un bazooka, Chuck Norris qui a un bazooka, et c'est un combat dans un bureau. C'est-à-dire que dans la logique même, on sait que si vous tirez avec un bazooka dans un bureau, toutes les personnes dans le bureau meurent. Mais là, non, non, c'est le combat final. Ils n'avaient pas des épées, du coup, ils ont pris des bazookas. Le tatou, c'est pareil. Alors, je me trompe peut-être, mais le tatou, il survit à l'attaque de la maison. Mais c'est juste qu'après, on n'a plus rien à faire, parce que je vois mal Chuck Norris se balader dans Miami avec son tatou un peu partout. Pareil, quand ils attaquent sa maison est totalement détruite, mais avant de partir, il l'enflamme quand même, ce qui sert à rien. Enfin, pour la symbolique, oui, mais...
Mais si, alors, si, c'est pour son copain indien. Son copain indien, qui c'est un enterrement indien, il le brûle. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Après, je cherche peut-être trop. Après, j'essaye peut-être trop de rationaliser ce film un peu surréaliste.
En général, voilà. Les Indiens, ils brûlaient pas. Hein. C'est les Vikings. Hein.
Oui, mais oui. D'accord. Mais peut-être chez les Norris, on brûle les Indiens.
Peut-être qu'à Miami, ils brûlent les Indiens.
Voilà. Voilà. Ouais. Peut-être, peut-être.
Ouais. Je la garderai pas celle-là.
Mais moi, je sais pour le tatou. C'est Rick qui le garde.
Ah, peut-être. Non, par contre, on a oublié de le dire, il y a quand même un personnage féminin dans ce film.
Ah oui.
Un personnage de journaliste qui est presque une femme avec des couilles, quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. C'est une femme qui n'a pas peur de dire aux communistes, toi, laisse-moi passer, toi, voilà, je vais te péter la gueule. Laissez-nous dire la vérité au monde libre, bon sang.
Ouais, elle est journaliste. De base, de ce que j'avais vu, ça devait être Whoopi Goldberg qui devait la jouer. Je suis content qu'elle ne soit pas dans le film, mais...
Oh, je sais pas, ça aurait pu être sympa, Whoopi Goldberg.
Mais en même temps, qui a peur des communistes, franchement?
Ah, Chuck, il avait vachement peur, ça se voit.
Bah, dans le film, ils disent en tout cas aux journaux que tout le monde est paniqué, tout le monde a peur. Ils le font avant la scène du centre commercial avec tout le monde qui est en train de faire ses achats de Noël. Mais en tout cas, les journalistes, ils disent que les Américains, ils sont terrifiés.
Quand je pense qu'on nous faisait des films anticommunistes qui avaient quand même une autre gueule, l'invasion des profanateurs de Sépulture par Don Siegel, c'était quand même autre chose. Bon, là...
Ouais, enfin, il n'y avait pas que ça dans le film de Siegel.
Non, il n'y avait pas que ça, évidemment.
Après, Siegel était de gauche, mais bon.
Après, oui. En dernier détail, je reviendrai un peu sur le traumatisme du méchant communiste, qu'il faut comprendre, parce que de base, Chuck Norris, on va le rechercher pour le combattre et tout. Chuck Norris est mécontent parce qu'il dit que la dernière fois, ils auraient dû le laisser le tuer. Et en fait, on a le communiste qui est traumatisé par la rencontre avec Chuck Norris. La rencontre, c'est quand même lui qui a un bazooka pour tirer sur une maison où il y a des gens qui font la fête. Chuck Norris arrive, le désarme et lui donne un coup de genou dans la tête. Et à ce moment-là, on voit le communiste qui est sur son lit, qui se réveille en mode « Je viens de me rappeler de pourquoi je le détestais ». Il le déteste pour un coup de genou dans la tête. Hein.
Ah bah, attends. Mais c'est quand même un coup de genou. Alors, c'est pas... Parce que bon, on se moque de Chuck Norris. Enfin, on se moque du film. Mais bon, déjà, c'est quand même... Il faut voir ce film parce que c'est représentatif d'un cinéma quand même qui est complètement disparu, que je vous disais tout à l'heure, peut-être à bon escient d'ailleurs. Mais enfin, il faut voir ça quand même, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on part de l'Aube Rouge, on arrive sur Invasion USA, c'est quand même assez incroyable, parce que Invasion USA aurait sans doute jamais vu le jour sans l'Aube Rouge. L'idée est complètement repompée à l'Aube Rouge, sans la... Là, pour le coup, sans la subtilité, oui, désolé Damien, du film de Milius. Mais bon, ça fait étrange hein, de dire ça, hein, mais voilà. Alors après, Chuck Norris reste par contre
un formidable champion d'arts martiaux, réellement. C'est-à-dire qu'il a été, je ne sais plus, je crois 5 ou 6 fois champion du monde dans la catégorie la plus violente, hein, qui serait un peu l'équivalent du MMA aujourd'hui. Donc c'est...
Lui, compagnie d'assurance.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas un rigolo, hein, quand même, Chuck Norris. D'ailleurs, Bruce Lee, quand il le prend dans La Fureur du Dragon, c'est parce que c'est un des rares occidentaux qui respecte, en fait, en tant que combattant et pratiquant des arts martiaux. C'est vraiment pas un petit joueur, là, sur ce coup-là. Et puis Chuck Norris a aussi un... Parce que ceci explique cela, comme il y a un trauma dans la famille Norris, c'est-à-dire qu'il y a une famille de cascadeurs et tout ça, voilà. Et il a un frère qui meurt au Vietnam. Donc ça fait que Chuck Norris, évidemment, lui, il va construire un autre scénario. C'est sa thérapie un peu, tout ça, quoi, voilà. Et il va devenir le héros américain qui va refaire aussi la guerre du Vietnam avec Les Portées disparues, dont un réalisé par Joseph Zito, hein, voilà, avec le rôle de Braddock, hein, qui est une sorte d'ersatz de Rambo, quoi. Même si, je crois que Le Portée disparue est tourné avant Rambo 2. Hein, donc, c'est plutôt Rambo 2 qui a piqué l'idée, je crois, à Portée disparue. Portée disparue, qui est l'un des rares exemples. En fait, ils avaient tourné le premier, ils ont tourné le deuxième et ils ont sorti le deuxième avant le premier. C'est un des rares exemples, voilà, de choix un peu étranges comme ça, parce qu'ils trouvaient que le deuxième était meilleur que le premier, en fait, et plus efficace, donc ils ont sorti le deuxième. Mais Chuck Norris, voilà, c'est une icône. C'est une icône réactionnaire, donc il va faire perdurer son personnage dans Walker Texas Ranger, hein, série qui a, oh là là, fait la joie de beaucoup de retraités les dimanches après-midi sur TF1. Voilà, qui est quand même, par contre là pour le coup, c'est de la mauvaise télé, hein, c'est mou du genou, c'est voilà. Et Chuck Norris, il est un peu ridicule quand même dans cette série, et il ferait presque passer Steven Seagal pour un bon acteur parfois, quand même, c'est dire. Donc voilà, alors que quand même il y a une certaine dose de second degré que moi que j'aime bien chez Chuck Norris, je le déteste pas comme acteur. Et il a même fait certains films que je trouve sympas. Mais voilà, c'est quand même l'invasion USA, c'est quand même pour moi le summum du cinéma. Delta Force et tout, c'est pas mal non plus. Hein, mais là, ça se passe sur le sol américain, donc c'est un peu différent. C'est quand même un peu le summum de ce que peut être le cinéma de propagande caricaturale des années Reagan aux États-Unis.
Ce qui est intéressant avec justement Invasion USA et L'Aube Rouge, c'est que, enfin, moi, de la façon dont on m'a toujours représenté les années 80, bon, 60, guerre froide, c'est tout ce qui est peur atomique, guerre nucléaire. Et c'est deux films qui ont un point de vue intéressant, que je trouve, qui est l'invasion directement sur le territoire, pas de manière sous-jacente comme ça pouvait être durant la chasse aux sorcières à Hollywood, mais vraiment de manière physique, c'est-à-dire le territoire américain qui est touché directement par la guerre. Et je trouve cette vision-là intéressante. En dépit du fait qu'Invasion USA, voilà.
C'est une vision plus réaliste. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Je veux dire, tout le monde a la bombe, mais pour l'instant, je croise les doigts, je touche du bois, personne s'envoie de bombe. On fait la guerre sur le terrain encore. Voilà, on veut conquérir des territoires.
Tu vois, pour les Américains, c'est ultra intéressant parce que dans L'Aube Rouge, justement, au moment où ils disent que les Européens n'interviennent pas, ils disent oui, c'est parce qu'ils ont eu suffisamment de guerres sur leur territoire. Et en fait, ils ne considèrent pas la Première et la Deuxième Guerre mondiale, certes. Ils y ont participé, les Américains, mais en fait, ça n'a pas touché directement leur territoire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme si, je sais pas, dans 10 ans, tu avais des films qui parlaient de la peur de l'invasion de la Russie à cause de ce qui s'était passé en Ukraine et non directement sur le territoire. C'est pour ça que John Milius, en 2010, du coup, il fait le scénario du jeu Homefront, qui reprend l'idée de la Corée du Nord communiste qui envahit de nouveau les États-Unis. On retrouve ce qu'il avait déjà fait dans L'Aube Rouge, c'est-à-dire la résistance américaine sur le territoire même américain.
Eh oui. John Milius, un peu des obsessions, on va dire. Voilà. Je termine en vous rappelant que Invasion USA, tout comme L'Aube Rouge d'ailleurs, est disponible chez ESC. Donc, deux films pour parfaire votre culture sur la géopolitique des années 80 que nous vous conseillons vivement. Of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth and run from right. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Cross the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be.